Heureux l'homme qui aime la voix de Dieu. Quand on est enfant, nos parents nous disent souvent, ou nous disaient, si tu es sage, si tu vas à l'école, si tu étudies bien, si tu fais ceci ou cela, si tu trouves un bon travail, si tu trouves la bonne personne pour vivre ta vie, alors tout va bien se passer. Et on grandit depuis notre enfance avec cette idée, oui, si je fais toutes ces choses-là, tout va bien se passer et je serai heureux, le bonheur. On en est quelque part persuadé, d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui va se passer. Si je suis suffisamment persévérant, suffisamment intelligent, suffisamment travailleur, alors oui, je serai heureux. Mais quelque part, les années passent et la réalité nous rattrape. J'ai lu il y a quelque temps une histoire de Yu Roy, un petit conte qui s'appelle « Histoire d'amour ». Et l'amour est bien l'une des choses dans lesquelles nous plaçons certainement le plus d'espérance. C'est ça qui va me rendre heureux. Cela se passe en automne 1977. Deux jeunes amoureux, 16 ans, un garçon et une fille. Et on les voit alors qu'ils s'apprêtent à prendre le bus pour aller à 40 km de là. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'ils font semblant de ne pas se connaître. Ils ne veulent pas que qui que ce soit reconnaisse qu'ils se connaissent en réalité. Et l'on se rend assez vite compte que ce jeune homme est très 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 irrité par cette femme, qui ne cesse en réalité de le regarder, de l'appeler. Elle dit « Mais on doit passer incognito !» Mais non. Elle continue de ne pas respecter le plan. Et on apprend qu'en réalité, une soir d'une nuit d'été, il y a de cela quelques mois en avance, ils se sont emportés. Ils ont été un peu trop loin sur un terrain de sport la nuit. Et s'ils vont à 40 km de là et qu'ils prennent le bus et que la tension est si élevée, c'est parce qu'il est fort possible que cette jeune femme soit enceinte et que tous leurs espoirs d'adolescents volent en éclats en un instant. Ce jeune homme, est, alors qu'il était si attiré par cette jeune femme, sa voix, son apparence, etc., à ce moment-là, il déteste l'entendre, il déteste sa voix. De considérer que ce moment de joie et de plaisir intense qui a duré quelques instants puisse en un instant transformer sa vie, combien de fois il a pensé à des manières de fuir, à des manières de mettre fin à ses jours, de considérer qu'il pourrait être expulsé de leur école, que les parents pourraient leur mettre à la porte et que leur réputation puisse devenir comme la poussière de la rue, éternellement salie. En un instant, l'espérance de l'espoir si naïf peut s'envoler. Et ce n'est qu'une histoire, mais ça nous parle de nos vies. Combien de nos expériences, combien des personnes que nous avons rencontrées peut-être autour de nous, parce qu'elles ont pris des coups dans les dents, année après année, ou parce qu'elles ont pris vraiment quelque chose de violent à un moment donné. Cette espérance a volé en éclats, le bonheur. Alors, est-ce qu'on peut vraiment être heureux? Est-ce que ce n'est pas un peu fou? Est-ce que c'est réellement possible? Après tout, civilisation après civilisation, les hommes sont en quête du bonheur. En Chine, c'était la recherche du Dao. Le Dao, c'est la voie. La voie, c'est le chemin. Ou alors le précepte, le Dao, la voie. La voie VOIE ou la voie VOIX. En France, c'est tout, et en Occident, c'est tous nos ismes. Tous ces concepts de pensée, le réalisme, le positivisme, l'humanisme, l'hédonisme, tant de concepts de la vie où on dit oui, une quête de trouver enfin le chemin du bonheur. Et on se rend compte qu'en réalité, après des années et des années, combien de milliers d'années, les hommes se sont engagés dans cette quête. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Comme ces deux jeunes hommes, ce garçon et cette fille. On est toujours autant assoiffé. Nos cœurs sont toujours autant desséchés. Les hommes sont toujours aussi secs à l'intérieur. Aucune source d'eau à l'horizon. L'homme est câblé comme ça. Quelque part, il savait que le bonheur était quelque chose de naturel. On aurait dû avoir cette pièce dans notre mécanique. Mais quelque part, la pièce n'est plus là. On aurait dû avoir ce bonheur, mais le bonheur n'est pas là. Où est-il passé? Et milliers d'années. Depuis des milliers d'années, l'homme cherche. Alors, aujourd'hui, qui parmi dans notre société croit que le bonheur est réellement possible? Les hommes ont cherché des milliers de voies, des milliers de Tao. Mais ce psaume nous dit qu'il n'y a en réalité que deux voies et une seule voie mène au bonheur. Une seule voie. Toutes les autres voies mènent au malheur. C'est ce que nous enseigne ce psaume. Ce psaume 1 est un peu comme la porte d'entrée de tout le psautier, de tous les autres psaumes, qui met un peu les bases, les fondements de la vie dans lequel on va pouvoir lire tout ce recueil de chants. Le psaume, c'est un peu comme le j'aime, un recueil de chants vers le Seigneur. Et le psaume 1 met les bases. C'est deux voies, une voie vers le bonheur, une voie vers le malheur. Le bonheur, le seul vrai bonheur, c'est pour celui qui aime la voix de Dieu, la voix VOIX et la voix VOIE. Alors laisse-moi te demander ce matin, est-ce que tu aimes la voix de Dieu? Est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Est-ce que tu marches dans la voix de Dieu? Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Premièrement, la voix de Dieu est la voix de la vérité éternelle, la seule vérité. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Si le malheur est rentré dans ton cœur et dans le cœur de l'humanité, c'est uniquement parce qu'il y a des années en arrière, au fondement de l'histoire de l'humanité, l'homme a écouté le conseil du méchant. Dieu n'a-t-il pas réellement dit? Dieu ne serait-il pas un menteur? Dieu a-t-il vraiment dit que tu ne pouvais pas manger de ce fruit? Et l'homme a commencé à écouter une autre voix. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus écouté la voix de Dieu. Et il a condamné l'humanité à devenir des pèlerins assoiffés à la recherche de la source du bonheur. Tout a commencé par une voix, par un conseil, par une question anodine. Qui est ton conseiller dans la vie? Le premier conseiller qu'on a suivi n'était pas vraiment le bon. Laisse-moi te demander, qui est ton conseiller aujourd'hui dans la vie? Il y a quelques semaines de ça, j'avais un bracelet que je devais ajuster au niveau du bracelet. Il était trop long. Alors j'étais dans une bijouterie et au final, j'ai laissé mon bracelet pour qu'il corrige cela. Ils m'ont dit, bon, tu peux revenir dans 2 jours. Je suis revenu dans 2 jours, le bracelet n'était toujours pas corrigé. Ils ont pris 5 minutes et ça m'a coûté une somme que je ne dirai pas parce que j'en ai honte. Cet horloger, ce bijoutier m'a clairement arnaqué. C'était un conseiller et c'était un véritable gâchis. Les mauvais conseillers, comme le serpent dans le jardin, ne portent pas de pancarte disant « Je suis méchant, mauvais conseiller, ne pas s'approcher ». Au contraire, ils n'ont même souvent pas conscience d'être même méchants. Ils sont comme aveuglés, comme toutes ces personnes qui ont toute leur voix, toutes leurs idées, toutes leurs pensées. C'est leur système de pensée. Et toi et moi, je pense qu'on est pareil. Quand on regarde un film, on ne s'identifie jamais aux méchants de l'histoire. Généralement, on s'identifie aux gentils de l'histoire. Et les gens qui nous entourent sont tous avec leur voix dans ce système de pensée. Je fais partie des gentils. Mais dans ce texte, les méchants, c'est qui? Les méchants sont tous ceux qui ne suivent pas la voix de Dieu, qui ne prennent pas plaisir en l'Éternel. Ils sont tous autant persuadés, les uns que les autres, que leur voie est la bonne, qu'ils sont sur la bonne voie. Est-ce que nous sommes vraiment sur la bonne voie? Ces gens se trompent. En réalité, il n'y a que deux voies, une bonne et une mauvaise. Sommes-nous sur la bonne? Je suis une voix maintenant, je suis en train de vous parler, vous entendez, ça passe par vos oreilles, je vous parle. Après ce culte, nous allons échanger et vous allez entendre la voix de votre voisin, de votre voisine. Vous allez entendre peut-être une trentaine de voix. Ce soir, tu vas peut-être allumer la télé, une série, quelque chose. Tu vas regarder un tuto, une autre voix. Combien de voix vas-tu entendre aujourd'hui seulement? Je ne sais pas. Une centaine peut-être. Demain, tu vas aller au travail, peut-être à ton club de bridge ou de ce que tu aimes faire. Tu vas entendre d'autres voix. Différentes, une centaine, peut-être 1000. Après, il y a aussi toutes les voix que tu entends depuis que tu es petit, tes parents, les professeurs à l'école, les camarades de classe. Année après année, combien de voix as-tu entendues? Chacune d'elles convaincue de sa propre vérité. Chacune d'elles est sûre qu'elle a la vérité, qu'elle te donne de bons conseils. Mais au final, il n'y a que deux voies. Et toutes ces voies rentrent soit dans une catégorie, soit dans l'autre. Et pour toutes ces voies que l'on suit, la soif de bonheur reste là. Pourquoi ? Parce que la voie, la seule et la vraie, l'unique voie de Dieu n'est pas là. Alors heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, même si ces méchants ignorent qu'ils sont des méchants. Parce qu'une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage et qu'on écoute et que la pensée et que la voix devient une vérité et qu'on y croit et qu'on l'achète et que cela devient une action et puis une habitude et enfin une communauté, on s'assied, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Quelles sont les voix que tu écoutes ? Quels sont tes conseillers ? Quel est le fondement de tes actions, le fondement de tes fréquentations ? Comme dit Jésus, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans un fossé. Quelles sont les voix ? Sincèrement, tu sais exactement le nombre de voix que tu écoutes. Lesquelles d'entre elles déterminent ce que tu décides ? Lesquelles d'entre elles déterminent ce que tu fais ? Tout commence par un conseil, par la voix qu'on écoute. Et de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, Paul dit aux Corinthiens, « J'ai peur que vous détourniez de la simplicité. » Parce qu'en réalité, de la même manière que le serpent a menti, nombre de ses voix sont des mensonges qui vous vendent des étoiles, qui vous vendent le soleil, mais ce sont des mensonges. Et l'on voit dans ce psaume que les méchants cherchent, ils cherchent frénétiquement, ils sont en sans cesse déplacement, alors que le juste est stable, il médite sur la parole, il a trouvé son plaisir. Et il est comme un arbre. Tous ces mensonges, toutes ces voix t'attirent loin de la vérité, de la seule et l'unique vérité. La voix de l'Éternel, celle que tu entends et celle que tu mets en pratique, celle sur laquelle tu marches, est la seule vérité. Et chacune de ces voix qui n'est pas la bonne veut te mentir. Et c'est là, le plus grand danger. C'est quand on croit qu'on a la vérité, comme c'est méchant, on n'est pas méchant, on croit qu'on a compris quelque chose. Et ce n'est pas vrai. La voix de l'Éternel est la seule vérité, la voix de l'Éternel est aussi la seule voie de la joie éternelle, la vraie joie, le vrai bonheur. Mais heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Ils sont stables sur la parole, ancrés dans la parole. Ils méditent. C'est exactement ce que disait Jésus à Marthe et Marie, qui s'activaient. Elle a choisi la bonne part. Elle avait choisi d'être au pied de Jésus, alors que sa sœur courait dans tous les sens. Elle a choisi la bonne part. Les méchants entendent une histoire, entendent une parole, entendent une voix, courent après une autre, ne trouvent pas le bonheur, toujours assoiffés. Mais la personne qui est au pied de Dieu est assise et elle a trouvé la joie. Ses paroles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel qui coule des rayons. Et il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il porte son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. De quel bois es-tu fait ? Quelle est ta personnalité ? Il y a tout type de bois. Mon père était menuisier. Il y a tout type de bois, tout type d'espèces, avec chacun sa veine différente, la taille différente, la couleur du bois est aussi très différente entre l'orne, le chêne. Chaque bois est différent. Alors, chacun d'entre nous, quelque part, peut être un arbre, peut être unique avec sa personnalité, mais quoi qu'il en soit, tous les arbres ont besoin de certaines conditions pour vivre. Ils ont besoin d'eau. Ils ont besoin d'être plantés près de l'eau pour être en bonne santé et porter du fruit. Ils ont besoin d'être connectés à la source. Alors ils peuvent prospérer et les oiseaux peuvent venir s'abriter. Ils peuvent apporter de l'ombre et de la fraîcheur. Mais pour cela, il faut que l'arbre soit connecté à la source. Il faut que tous les arbres, chacun d'entre nous, soyons connectés à la source. Si tu n'es pas connecté à la source, comment est-ce que l'arbre peut continuer à vivre? Et la présence de Dieu est comme cette source qui est proche de l'arbre auquel nous pouvons rester attachés. La voix de Dieu, la présence de Dieu est cette source qui nous nourrit. Un homme sans Dieu, c'est un homme mort. Un homme sans Dieu, c'est un homme qui n'a pas de joie. Et la présence de Dieu, révélée par sa parole, est ce qui nous donne la joie, ce qui fait jaillir notre bonheur. Refuser de connaître Dieu et se laisser avoir par les mensonges de ce monde, c'est comme mettre sa tête dans un sac plastique. Au bout d'un moment donné, tu ne pourras plus respirer et tu vas t'effondrer. Un homme sans Dieu, c'est un homme mort. Un homme sans Dieu, c'est un homme sans bonheur. Dieu est cette source, la source de la vérité, la source de la joie. Et la raison ultime pour laquelle le juste a trouvé le bonheur, il est heureux, c'est parce qu'il est dans la présence de Dieu, qu'il savoure Dieu. Un tel homme a une vie transformée. Le royaume des cieux, c'est ce qu'il fait. Il est semblable à une graine qui est plantée dans un champ, et c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que des légumes et devient un arbre, de sorte que tous les oiseaux du ciel peuvent venir s'abriter dans ses branches. C'est ce que fait la présence de Dieu. Et l'homme qui a porté le plus de fruits, qui était l'homme le plus fertile, c'est Jésus-Christ. C'était celui qui était le plus connecté à Dieu possible. Sa présence était là, il était le plus proche du ruisseau. Je ne sais pas de quel type d'essence d'arbre il était, mais alors lui, il a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie. Il a été en ce sens beaucoup plus fertile. Il a porté le plus de fruits que n'importe lequel d'entre nous. Parce qu'il est monté sur l'arbre, il est monté sur le bois. Et à la croix, cette croix est devenue cet arbre qui donne le plus de vie, dans lequel, pas seulement les oiseaux, mais nous pouvons venir nous abriter, nous pouvons venir trouver la vie. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Est-ce que vous écoutez la voix de l'Éternel? Écoutez-vous la voix de l'Éternel? Aimez-vous la voix de Dieu? Ou aimez-vous la voix des méchants? Écoutez-vous la voix de Dieu? Ou écoutez-vous la voix des méchants? Où en sommes-nous? Avec la parole de Dieu révélée chaque jour, chaque matin, où en es-tu? Nous voyons dans ce texte que celui qui prend la parole de Dieu, qui la médite jour après jour, nuit après nuit, est comme cet arbre qui prospère et qui reste en vie. Il ne meurt pas. Parce que se rapprocher de Dieu, être proche de lui, c'est être en vie. Ne pas être avec lui, c'est être mort. Et en réalité, on voit que le méchant ne résiste pas lors du jugement. Il n'est pas dit que Dieu va le juger. Il n'est pas dit que Dieu va lancer une sentence contre lui. Ce n'est pas dit ici dans ce texte. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, c'est pour le juste. Mais les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Il n'est pas dit de quel jugement il est fait question. En réalité, il semble que c'est juste l'ordre normal des choses. Le juste est proche de Dieu. Il aime sa voix, il écoute sa voix, il la met en pratique jour après jour. Le méchant écoute d'autres voix, il va à gauche et à droite et il continue à être cette paille que le vent disperse. Oui, Dieu va juger, mais en réalité, dans ce psaume, cela semble être juste la chose la plus naturelle du monde. Si tu n'es pas proche de ton Dieu, si tu n'es pas proche de la voix de ton Dieu, la chose la plus naturelle qui va se passer, c'est que tu vas être comme la paille emportée par le vent. Pourquoi? L'Éternel connaît la voix des justes. Est-ce que l'Éternel L'Éternel, le maître de l'univers qui t'a créé, connaît ta voix. Est-ce qu'il la connaît? Ou est-ce que tu es comme ce méchant dont la voix mène à la ruine? Jésus, qui a commencé l'un de ses discours de la même manière, heureux, l'a terminé de cette manière-là. En parlant à des gens qui croyaient connaître Dieu, en parlant à des gens qui croyaient que Dieu connaissait leur voix, qui avaient une fausse assurance, il leur avait dit: entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Jésus est la voie qui donne la vie, et le chemin est étroit. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé en ton nom, nous n'avons pas fait ceci ou cela, chassé des démons en ton nom, nous n'avons pas fait beaucoup de miracles en ton nom. » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal, vous qui ne mettez pas ma parole en pratique. » La voix des méchants mène à la ruine. Et Jésus continue: c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quelle est la différence entre les uns et les autres? Quelle est la différence? La seule différence, c'est que les premiers aiment la voix de Dieu. Quelle est notre émotion? Trouver son plaisir dans la voix de Dieu. Il est question de trouver son plaisir. Ce n'est pas juste faire, ce n'est pas juste appliquer, ce n'est pas juste serrer les dents, ce n'est pas juste obéir. Aimer, trouver son plaisir. J'ai entendu un jeune me dire il n'y a pas si longtemps: je ne sais pas trop où j'en suis dans ma vie, je ne sais pas trop si je suis en train de marcher vers Dieu ou si je suis en train de marcher de l'autre côté, j'ai l'impression d'être un peu à l'arrêt. J'attends de voir ce qui va se passer. Mais en réalité, il n'y a pas de statu quo. On est forcément en train d'aller dans une direction ou dans une autre. On est forcément en train d'avancer sur une voie ou sur une autre voie. On est dans un train qui va soit dans une direction, soit dans l'autre, et le TGV, il va à toute allure. Et sur chacune de ces deux voies, il y a deux destinations. Il y a une destination qui est celle de la joie avec le Seigneur et une autre qui est celle de la destruction, de la ruine. Ce qui est le plus frappant dans ces personnes, c'est qu'ils ont construit leur maison, ils se sentent à l'abri. La maison est là, ils ont un toit au-dessus de leur tête. Je me sens bien, tout va bien pour moi. Mais elle n'est pas fondée sur le rocher. Et la seule chose qui fait que l'arbre ici subsiste et qu'il n'est pas de la paille, ou que la maison subsiste, c'est qu'elle est fondée sur la parole et elle est ancrée dans cet amour pour la parole, cet attachement à la parole. Alors, sommes-nous bien portants ou sommes-nous secs? Sommes-nous des arbres de vie ou des arbres morts? Est-ce que notre apparence est comme un sapin de Noël qui a l'apparence de la vie mais qui en réalité est un faux? Est-ce que c'est un gros mensonge? Il nous faut trouver notre fraîcheur, notre bonheur, notre joie dans la parole de Dieu. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. Où en êtes-vous avec la parole de Dieu? Et je ne veux pas vous dire « il faut que » dans un sens vous culpabiliser. Mais j'aimerais vous dire qu'il trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Il y a un tel plaisir dans cette parole. Et parfois, on ne la trouve pas. Mais comment la trouver? Comment trouver son plaisir? Comment arrêter de chercher à gauche et à droite, dans les circonstances, dans les relations, dans quoi que ce soit d'autre? Comment trouver son plaisir dans cela? Est-ce que pour toi, ce livre est un juste des arbres morts, enfin comme des feuilles. C'est un arbre coupé. Hein. Est-ce que c'est mort? Est-ce que ça ne te parle pas? Est-ce que c'est juste de l'encre du papier? Ou est-ce que ces mots qui sont ces miroirs des réalités de Dieu et de ce qu'il a fait te parlent? Est-ce que tu les aimes? Quelle voix écoutes-tu? Est-ce que tu aimes les autres voix ou est-ce que tu aimes cette voix? Il ne s'agit pas juste de lire tous les chapitres le matin et de cacher la case et juste d'enchaîner avec la journée. C'est bon, j'ai fait ce que je devais faire, ma conscience est tranquillisée. Mais de trouver sa joie, de prendre le temps de dire ce n'est pas juste fais ceci ou fais cela, mais c'est les paroles de Dieu pour toi, c'est cette relation. C'est Dieu qui te dit, au travers de ses paroles, ce qu'il a fait, qui te dit « je t'aime », qui te dit « tu es mon fils », qui te dit « vis pour moi », qui te dit « je suis ton père », qui te dit « voilà, je suis qui je suis, je suis la vie, voilà ». Qui te dit même quand tu as fait n'importe quoi, que tu n'as pas été fidèle, qu'il reste fidèle, qu'il ne t'oublie pas, qu'il est gracieux, qui te montre le sang de Jésus. Et ses mains, quand toi tu as péché, cette parole, elle te dit ses réalités. Et alors, quel plaisir! Tu trouves, tu rencontres cette personne, ce Dieu plein de grâce, ce Dieu plein d'amour, ce Dieu qui t'aime vraiment au plus profond de son être, parce que c'est ce qu'il est. Tu découvres la beauté de sa patience, la beauté de son amour. C'est cela, trouver son plaisir dans la parole de l'Éternel. Et peut-être que vous me direz, mais je ne le vois pas, je n'y arrive pas, je prends la parole et pour moi c'est juste très sec. Peut-être que tu te dis, moi la lecture de la parole, j'y arrive pas, j'ai essayé, j'y arrive pas. Et j'aimerais vous donner des pistes concrètes pour vous aider à mettre ça, à découvrir le plaisir de creuser la parole, d'aimer la parole de Dieu, d'aimer sa voix. Et l'une des premières choses que l'on peut faire et que l'on doit faire, et je terminerai sur ces recommandations très pratiques, comment aimer la voix de Dieu, être cet arbre qui porte du fruit et trouver la joie même dans toutes les saisons de la vie. Première chose que nous pouvons faire, c'est de prier. Le psalmiste a prié, le psalmiste qui écrit ce chant, qui dit « j'ai trouvé la joie », il le dit, « j'ai prié », il a prié « ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». Paul nous encourage, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur en Éphésiens. Prions avant de prendre la parole le matin, avant de prendre ce temps avec cette parole révélée, prends le temps de prier. Ça change tellement tout. Juste de prendre ça rapidement, ou alors de prendre le temps de Seigneur, ouvre mon cœur, ouvre mes yeux. Seigneur, montre-moi. Seigneur, utilise ta parole pour me changer. Et Dieu répond aux prières. Il va le faire. Ne commence pas, ne va pas trop vite, ne commence pas sans prier. Une autre chose que nous voyons, c'est qu'il est planté. Il médite. L'arbre, il ne court pas. L'arbre, il ne va pas dans tous les sens. L'arbre, il prend son temps. Ralentir avec la parole, prendre le temps. Ne pas juste lire à toute allure, mais prendre le temps pour qu'elle te parle, pour t'en délecter, pour essayer de te mettre à la place des personnages. Pour te nourrir, ressentir aussi, être à l'écoute du Saint-Esprit qui te parle. On dit souvent, j'aurai pas le temps, j'aurai plus de temps à la retraite. Je peux vous dire que les retraités qui m'ont dit ça aujourd'hui, ils sont à la retraite, ils ne les font pas plus qu'avant. Prends le temps, maintenant. Je me rappelle du témoignage de cette maman qui avait plein d'enfants, et c'était difficile pour elle de prendre le temps, mais elle avait mis une règle en place. Quand elle était dans la cuisine et qu'elle mettait un voile sur sa tête, c'était le moment, et les enfants le savaient, où il ne fallait pas déranger maman. C'était le temps où maman prenait son temps avec le Seigneur. Et priez aussi pour voilà, trouver des astuces. Et Dieu va vous inspirer pour trouver le temps, même quand des fois c'est difficile de trouver le temps. On a tous des situations, des circonstances de vie différentes. Mais dans chacune d'entre elles, nous pouvons être comme cet arbre qui trouve sa joie dans la parole. Cet homme qui trouve sa joie et qui est comme cet arbre. Alors, ralentissons. Il est question de méditer jour et nuit. Méditer, ruminer. Prendre le texte et le réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Poser des questions au texte. Prendre le temps, c'est peut-être aussi prendre un crayon et écrire à côté, poser des questions. Juste les questions qui te passent. Et tu retireras tellement plus que juste lire à toute allure. Et la parole va te parler et tu vas prendre ton plaisir dans la parole. Tu peux aussi essayer de repartir avec juste un verset. Juste un verset qui t'a parlé, le noter sur un bout de papier et le mettre dans ta poche, le mettre sur ton téléphone et le ressasser, le ruminer pendant la journée. Que ce verset ne te quitte pas. Vraiment, prends un verset avec toi. Et un dernier conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'avoir une habitude, de créer une habitude, de trouver un endroit, de trouver un moment qui ne change pas, avec des habitudes. Pour moi, c'est, j'ai une chaise, j'ai mon petit meuble à côté pour poser ma Bible, j'ai mon café, quand j'ai mon carré de chocolat, j'ai mon carré de chocolat, et j'ai mes habitudes, et je prends plaisir dans la parole de Dieu. Et cela vous aide chaque matin, vous n'avez pas à réfléchir, ok, qu'est-ce que je vais lire? Dans cette même idée, avoir un plan de lecture peut aider. Il y a plein de plans de lecture, je vous encourage. Allez ce soir, trouvez sur Internet, plan de lecture, trouvez celui qui vous va le mieux. Et commencez. Ça vous aidera à gagner du temps le matin, à ne pas réfléchir, qu'est-ce que je dois lire, où est-ce que je dois aller, où est-ce que je dois m'asseoir, etc. Si vous avez tout ça de calé, ça va être beaucoup plus facile. C'est des choses très pratiques. La vie et le bonheur sont dans la loi de l'Éternel. Celui qui la médite, ses réalités, pas ses commandements secs, mais ses réalités et son amour. Alors, heureux l'homme qui aime la voie de l'Éternel. Quelle voix écoutes-tu vraiment dans ta vie? Heureux l'homme qui n'écoute pas les mensonges, les autres voix, mais qui écoute la voie de l'Éternel, car c'est la seule voie de la vérité. Et heureux l'homme qui aime la voie de l'Éternel, car c'est la seule source de la joie et de la vie. Connaître Dieu, la vie et la joie. Si nous voulons aller jusqu'au bout et expérimenter cette joie et de la présence de notre Dieu jusqu'au bout, il nous faut savourer la parole. Le seul chemin, la seule voie, la seule source qui peut nous désaltérer, parce qu'elle nous montre Jésus-Christ. Qui nous dit, et je conclue là-dessus, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Si tu ne bois pas tous les jours, tu meurs. Si tu ne respires pas tous les jours, tu meurs. Un homme sans Dieu, c'est un homme mort. Je prie. Seigneur, merci parce que tu nous aimes, tu nous aimes si tellement et tu veux notre bonheur en toi, Seigneur. Et à tous ceux qui cherchent ton royaume et qui te recherchent toi, ils trouvent le bonheur. Père, et je prie que nous puissions trouver en toi chaque jour la vie, trouver en toi chaque jour la joie de te découvrir. Je prie, Père, pour que nous puissions, cette Église qui n'est pas morte parce qu'elle ne fait que suivre des lettres mortes, mais qui est vivante parce qu'elle est en contact avec le Dieu vivant, parce qu'elle est connectée avec le Dieu vivant, jour après jour, et que ta vie coule sans cesse et se déverse en nous, Père. Transforme-nous par ta parole. Ouvre nos yeux afin que nous puissions savourer, nous délecter dans ta loi et les réalités si précieuses et belles qu'elle nous apprend. Éternel, en toi il y a le bonheur et je prie que nous puissions vivre le bonheur en toi. Amen.